Chapitre 3. La cathédrale résiste au temps. La cathédrale, construite au Moyen-Âge, sans les techniques modernes, va faire face, les siècles suivants, aux révolutions, aux guerres et à la pollution. Et elle va résister. La Révolution française. En 1789, la Révolution menace la cathédrale. La Révolution française. Le 14 juillet 1789, le peuple français prend la Bastille, qui est alors une prison. Pauvres, sans nourriture, les gens se révoltent contre le roi Louis XVI et sa femme, la reine Marie-Antoinette, surnommée l'Autrichienne, qu'ils détestent. La Révolution va durer plusieurs années. Le roi est guillotiné, on lui coupe la tête. La reine aussi. Les nobles aussi. Les prêtres sont chassés. On ne croit à présent plus en Dieu. Le peuple, qui veut gouverner, s'en prend au roi, aux prêtres, aux églises. On enlève la flèche du XIIIe siècle. On détruit ou on abîme les statues de la galerie des rois de Juda, car elles représentent des rois. Entre 1791 et 1792, on descend, on brise et on fond les cloches. Seul le bourdon Emmanuel résiste. En 1793, le culte catholique est interdit à Paris. On ne peut plus aller prier dans une église. La cathédrale est saccagée. Notre-Dame devient un temple de la raison. On y stocke du vin. La cathédrale change aussi de propriétaire. Avant la Révolution, la cathédrale appartenait à l'archevêché de Paris. Depuis 1789, elle appartient à l'État français. La réouverture. En 1801, Napoléon Bonaparte est au pouvoir. Un traité rétablit le culte catholique dans les églises. En 1802, la cathédrale rouvre, mais elle est très abîmée. Napoléon Bonaparte. Né en Corse en 1769, Bonaparte devient militaire. Il est général pendant les guerres sous la Révolution française. Il multiplie les victoires, est aimé du peuple et prend le pouvoir en 1799. En 1804, il devient empereur des Français. De 1805 à 1812, il gagne beaucoup de batailles et conquiert une grande partie de l'Europe. Mais il finit par perdre des batailles. En 1814, on le chasse. Il revient en 1815, mais il est vaincu à Waterloo. On le chasse à nouveau. On l'enferme sur l'île britannique de Sainte-Hélène, où il meurt en 1821. En 1804, Napoléon est sacré empereur à Notre-Dame. On va cacher avec des draperies, des tapisseries, des velours, les dégradations de l'intérieur. La Révolution de 1830. En 1830, les choses s'aggravent. C'est la Révolution de juillet. La Révolution de 1830. Après le départ de Napoléon, les rois reviennent en France. Louis XVIII, puis Charles IX. Mais en 1830, la situation de la France est difficile sur le plan politique et économique. Pendant 3 jours, fin juillet, des gens, étudiants, ouvriers, sortent dans la rue, cassent tout, se battent. Charles IX doit partir. Louis-Philippe arrive au pouvoir. Lors de la Révolution de 1830, les gens cassent des vitraux, pillent la sacristie et mettent le feu à l'archevêché. La cathédrale est en très mauvais état. Gérard de Nerval, un grand poète de l'époque, parle d'elle comme d'une ruine austère. On songe à détruire Notre-Dame. La reconstruction. Heureusement, en 1831, un très grand écrivain français, Victor Hugo, publie un roman à la gloire de la cathédrale, Notre-Dame de Paris. Son ouvrage est un grand succès. Les gens se réveillent. Il faut sauver Notre-Dame. En 1842, le gouvernement de Louis-Philippe décide de restaurer la cathédrale. Il organise un concours. 2 ans plus tard, Eugène Viollet-le-Duc et Jean-Baptiste Lassus, qui meurent en 1857, gagnent le concours. La restauration commence. Elle durera 20 ans. Grand travailleur, le célèbre architecte Viollet-le-Duc installe son bureau dans la tour sud. On remet en place les sculptures, la galerie des rois de Juda, et on installe une nouvelle flèche qui ne sert pas de clocher. Elle est décorative. Cette grande flèche est un chef-d'œuvre de bois recouvert de plomb, surmonté d'une girouette en forme de coque. La flèche culmine alors à 96 mètres de hauteur. On restaure les portails et la sacristie. Viollet-le-Duc trouve que les grands mets, les tableaux que les orfèvres ont offerts au XVIIe siècle, prennent trop de place. Il garde 13 tableaux pour décorer les chapelles et fait mettre les autres mets dans des églises ou des musées. Viollet-le-Duc va aussi imaginer et faire construire les chimères. Les chimères. En haut de la cathédrale, en bordure de terrasse, à l'extérieur, on peut voir des sculptures verticales un peu monstrueuses. Ce sont des chimères. Elles sont différentes des gargouilles. Les gargouilles datent du Moyen Âge. Elles sont horizontales, utiles et rejettent l'eau plus loin. Les chimères datent du XIXe siècle. Elles sont verticales, inutiles. Elles sont décoratives. Ces statues qui représentent des créatures fantastiques, bizarres ou diaboliques, redonnent à la cathédrale une atmosphère médiévale. La plus connue est la Strige, une sculpture composée d'une tête de femme et d'un corps d'oiseau, qui rappelle la chimère de la mythologie. Elle se tient la tête dans ses mains. La chimère mythologique. Chez Homère, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée, la chimère a une tête de lion, un corps de chèvre, une queue de dragon. Chez Hésiode, un auteur du 8e-7e siècle avant Jésus-Christ, elle a 3 têtes, lion, serpent, chèvre. Ce monstre crache des flammes et dévore les gens qui passent devant lui. C'est Bellérophon qui la tuera avec des flèches. Ce monstre a donné en français 2 mots, un nom et un adjectif. Une chimère est un projet imaginaire qui n'arrivera jamais. Des projets chimériques sont des projets imaginaires qui ne se feront pas. La statue de la Vierge Marie de l'entrée du chœur. Depuis le XIIe siècle, il existe un autel dédié à la Vierge Marie. Les fidèles et les pèlerins y priaient Notre-Dame. Au XIXe siècle, Viollet-le-Duc y installe une statue de la Vierge qui tient dans ses bras l'enfant Jésus. Cette statue est la plus connue de la cathédrale. On la surnomme Notre-Dame de Paris. Cette sculpture date du XIVe siècle. Elle se trouvait dans un cloître de l'île de la Cité. On l'installe dans la cathédrale en 1818. À cette époque, on la place sur le portail de la Vierge. En 1855, Viollet-le-Duc la change de place. Après 20 ans de travaux, Notre-Dame retrouve toute sa beauté. Elle ressemble à la cathédrale qu'on pouvait visiter avant l'incendie de 2019. Les deux guerres mondiales. Les deux guerres mondiales épargnent la cathédrale. Au début de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, en octobre, on a mis des sacs de sable devant la cathédrale pour la protéger des tirs des Allemands. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, pendant la libération de Paris, août 1944, on a combattu juste à côté. Fin XXe siècle, début XXIe siècle. À la fin du XXe siècle, comme au siècle précédent, on a continué à embellir la cathédrale. En 1989, on installe un nouvel autel plus moderne. Il se trouve à la croisée du transept. Dans les années 1990, on nettoie la façade de la cathédrale salie par la pollution. Notre-Dame retrouve sa couleur ivoire. En 1991, l'UNESCO inscrit la cathédrale au patrimoine mondial de l'humanité. En 2008, le pape Benoît XVI se rend à la cathédrale. Pour cette occasion, et en vue de la fête pour les 850 ans de la cathédrale, on nettoie les 8000 tuyaux du grand orgue, on améliore l'éclairage et on installe 8 nouvelles cloches. Les ruches. Depuis 2013, il y a 3 ruches sur le toit de la sacristie. Chaque année, les 200 000 abeilles donnent environ 30 kg de miel. Les ruches ont échappé à l'incendie de 2019. Tout semble bien aller. Pourtant, en 2019,